France Culture.
France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
J'aimerais beaucoup retourner en Birmanie. Si je le pouvais, j'irais, car je n'ai pas de nouvelles de mes parents depuis 7 ans. Et ici, j'ai beaucoup de difficultés.
La vie est difficile pour tout le monde. Si tu restes au pays, c'est dur. Si tu le quittes, tu gagnes peut-être plus d'argent, mais ça reste très dur. Il n'y a pas de bonne réponse.
Le plus effrayant ici, c'est l'expulsion. La Malaisie a déjà eu recours à des expulsions. Alors que se passe-t-il pour les réfugiés qui n'ont pas de carte du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés? Eh bien, ils seront ramenés dans leur pays. À la fin de la journée, ils seront tués.
La junte au pouvoir en Birmanie cherche à adoucir son image. Elle a annoncé le 2 mars la libération de quelques 7300 détenus pro-démocratie. Mais les principaux dissidents emprisonnés depuis le putsch de février 2021 restent en prison, à commencer par l'ancienne dirigeante Aung San Suu Kyi. Depuis son indépendance en 1948, la Birmanie n'a connu qu'une dizaine d'années de tentatives démocratiques. L'armée y a brutalement mis fin il y a 5 ans et le pays s'enfonce dans la guerre civile. Le régime militaire continue d'affronter de multiples mouvements de guérilla. Aujourd'hui, il contrôle moins de la moitié du territoire birman. Pour asseoir sa légitimité, il a organisé en décembre et janvier des élections législatives prétendument multipartites et son allié, le Parti de l'Union, de la Solidarité et du Développement, a revendiqué la victoire. Mais observateurs et ONG dénoncent une mascarade. Selon le Bureau des droits de l'homme de l'ONU, ces élections contrôlées par l'armée n'ont fait qu'accentuer les violences et la polarisation de la société. Au quotidien, la population sous surveillance généralisée survit entre peur et privation. 20 millions de personnes sont en situation d'urgence humanitaire. En 5 ans, l'ONU a recensé plus de 3 millions de déplacés et 1 300 000 Birmans fuyant la guerre civile sont partis à l'étranger. Dans les pays voisins où ils ont trouvé refuge, quel est le sort des Birmans exilés? Birmans en exil, entre survie et espoir de démocratie, c'est un reportage à trois voix signé Juliette Buchez, Juliette Pietraszewski et Juliette Chénion. Bonjour Juliette Chénion.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes en ligne depuis la capitale thaïlandaise, Bangkok. Avec vos consoeurs Juliette Pietraszewski en Malaisie et Juliette Buchez au Cambodge, vous avez recueilli les témoignages de Birmans exilés en Asie du Sud-Est.
Oui, c'est ça. 5 ans après le coup d'État et puis les élections il y a quelques semaines, en janvier et en décembre dernier, ça nous semblait important de raconter une autre facette de la crise birmane qui est celle des exilés. Vous l'avez dit, il y a plus d'un million de Birmans qui ont fui leur pays et puis la plupart arrivent donc d'abord en Thaïlande parce qu'il y a déjà des millions de Birmans qui sont installés et ce depuis des années, notamment parce qu'il y a eu d'autres crises par le passé en Birmanie. Et puis ensuite, ils vont parfois dans d'autres pays. En tout cas, ce qui nous a marqué, c'est qu'il y avait une grande diversité derrière le terme exilé birman. Il y a vraiment des parcours très différents, des réalités assez variées entre les militants politiques, très diplômés, les migrants économiques, les déserteurs qui fuient l'armée de la junte et puis même aussi parfois juste des villageois qui fuient les combats. On a même décidé d'ailleurs de parler des Rohingyas qui sont un cas un peu particulier parce qu'ils étaient déjà marginalisés avant le coup d'État. Mais le conflit actuel en Birmanie et la présence de la junte au pouvoir n'arrangent rien à leur situation. Donc voilà, c'est vraiment cette diversité, ces parcours très différents que l'on raconte dans le reportage.
Des parcours très divers, effectivement, Juliette. Ils ont aussi des points communs?
Oui, je pense que le premier, quand j'en ai discuté avec mes consoeurs Juliette Buchez et Juliette Pietraszewski, c'est vraiment la peur. La plupart des Birmans ont peur de s'exprimer au micro, alors même qu'on a du mal à estimer ce qu'ils risquent vraiment, puisqu'ils ne sont plus en Birmanie. Mais cette peur de la répression, de la junte, de parler publiquement est vraiment très ancrée pour la plupart d'entre eux. D'un autre côté, il y a un autre point commun qui est peut-être un peu plus positif, c'est celui de la résilience. Malheureusement, ce n'est pas nouveau pour les Birmans de fuir son pays, qu'il y ait une crise, de devoir reconstruire sa vie ailleurs. Donc on voit que la plupart des exilés, malgré les difficultés, essaient vraiment de trouver des solutions. Et aussi parce que la plupart, en fait, ne sont pas du tout optimistes par rapport à ce qui se passe en Birmanie. Donc ils sont contraints de reconstruire leur vie ailleurs.
Oui, on va les entendre dans un instant. Merci Juliette. Et nous accueillons en studio Christian Lechervy. Bonjour.
Bonjour.
Diplomate, ambassadeur de France en Birmanie de 2018 à 2023, vous êtes à présent envoyé spécial pour la Birmanie en France et vous avez reçu le prix du livre de géopolitique 2025 pour l'Asie-Pacifique, nouveau centre du monde, un livre écrit avec la chercheuse Sophie Boisseau-Durocher et paru chez Odile Jacob. Avec vous, nous partons tout de suite pour la Thaïlande et c'est la voix de Juliette Pietraszewski qui nous accompagne dans ce reportage.
Sur ce marché, on vend des poissons séchés, du poisson frais, du fruit, du jacquier, des billets de loterie.
Nous vendons différents types de produits frais, 20 bahts pour 5 articles au choix. Ici, nous avons des feuilles de shikakai, du radis blanc, des feuilles de margousier, etc.
La Birmanie n'est qu'à quelques kilomètres. Seule une rivière sépare les deux pays. Certains la traversent légalement par l'un des deux ponts, d'autres clandestinement sur une barque. Cela prend moins de 5 minutes. Cette vendeuse préfère taire son prénom. Sur ses joues, deux ronds dessinés avec une patte jaune clair. Cela s'appelle le tanaka, un maquillage traditionnel pour les femmes en Birmanie. On l'aperçoit très souvent à Maisot, sur les visages des femmes et des enfants.
Il y a beaucoup de Birmans comme vous ici, à Maisot.
Ici, il y a des musulmans et des gens de toutes les ethnies, comme les Kayins, mais les Bamars sont majoritaires. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Parfois, dans les mauvais jours, nous devons fuir et nous cacher pour échapper aux agents de l'immigration thaïlandaise.
Plusieurs dizaines de milliers de Birmans vivent à Maisot. Cette ville thaïlandaise est parfois surnommée « Little Burma ». Depuis plus de 40 ans, des Birmans y cherchent du travail, une meilleure situation économique. D'autres fuient la répression et les conflits au gré des crises secouant la Birmanie. Depuis 5 ans et le retour de la junte au pouvoir, la ville accueille de nouveaux exilés.
Moi, je suis arrivée en Thaïlande il y a 3 ans. Je viens de Rangoon.
Les Birmans et Birmanes fraîchement arrivés à Maisot peuvent compter sur des réseaux de solidarité déjà installés. Une semaine par mois, dans cette petite rue de la ville de Maisot, une association de Birmans en exil, l'OIA, distribue de la nourriture à 790 familles.
Sur le rideau de fer du local, il y a une affichette qui rappelle les quantités d'une ration pour une personne pour 2 mois. Donc en ce moment sont distribués 13,5 kg de riz, 1 litre d'huile, 8 boîtes de conserve de sardines, 1 kg de haricots secs et 150 g de sel.
Oui, je peux donner mon prénom, Oma. Je suis déjà fichée par la junte de toute façon.
Oma porte des sandales violettes et une chemise à carreaux. Elle est arrivée en Thaïlande il y a 5 ans.
J'ai soutenu les manifestations contre la junte et j'ai aidé des jeunes à rejoindre les forces rebelles Karen. Puis, j'ai des liens de parenté avec Aung San Suu Kyi, donc les militaires ont tenté de m'arrêter chez moi. Ils ont positionné 6 camions devant chez moi.
Donc vous avez fui ?
Oui, je suis venue clandestinement en Thaïlande. En utilisant de faux papiers.
L'association l'a hébergé les 6 premiers mois. Depuis, Omar a trouvé un travail dans des plantations de piments.
Quel était votre métier en Birmanie ?
J'avais une compagnie de taxi et aussi je louais des biens. Ma situation maintenant, c'est le jour et la nuit. En Birmanie, j'étais patronne. En Thaïlande, je suis ouvrière. Mais je suis fière de ce que j'obtiens par le travail. Et je suis heureuse. Car au moins, je suis vivante.
Oma s'interrompt, son tuk-tuk chargé de provisions l'attend pour rentrer chez elle. « Certains Birmans vivent en ville, beaucoup s'installent un peu plus loin, à la campagne, et cherchent avant tout de meilleurs salaires qu'en Birmanie. Coco, c'est un surnom, se repose dans un hamac.
Mon quotidien, c'est de travailler dans les champs de canne à sucre. Je fais ça depuis 3-4 mois. Ensuite, je repartirai dans les champs de maïs.
Plus de la moitié des Birmans en Thaïlande n'ont pas de statut légal et des expulsions ont régulièrement lieu. Le patron de Coco, un Thaïlandais, a déjà payé 2 amendes pour lui éviter d'être arrêté. Une solidarité des particuliers souvent discrète, mais bien présente. Coco gagne 200 à 300 bahts par jour, moins que le salaire minimum en Thaïlande.
J'aimerais vraiment retourner dans mon pays, mais je ne peux pas. Au moins, en Thaïlande, je ne vis pas dans la peur et je peux gagner un peu d'argent. La vie est un peu plus confortable ici. Sur ce point, c'est mieux qu'en Birmanie. Et autour d'ici, il n'y a que des villages peuplés de Birmans, donc on se sent un peu chez nous. Et puis en Birmanie, les gens ne veulent plus rester chez eux à cause de la guerre. Il y a de nombreux villages vides ou détruits. En Birmanie, les militaires forcent tout le monde à partir se battre. Peu importe qu'on soit jeune ou vieux, même des jeunes de 15-16 ans. Je connais au moins 7 amis de mon village natal qui ont été envoyés au service militaire. Et ils ne sont toujours pas rentrés chez eux.
Depuis 2 ans, la junte impose la conscription aux hommes et femmes de 17 à 35 ans, poussant à l'exil toujours plus de jeunes Birmans. L'armée, c'est un état dans l'état birman. L'armée qui n'avait jamais complètement relâché son emprise sur le pouvoir, même à l'époque de la pseudo-ouverture démocratique du pays avec Aung San Suu Kyi. Avant le coup d'État, le gouvernement élu est depuis longtemps dans un exercice d'équilibrisme, qui échoue et s'effondre suite aux élections de 2021 avec le coup d'État. Pour maintenir son influence, le général Min Aung Hlaing et la junte militaire n'ont pas attendu le coup d'État ou la conscription pour booster et contraindre les recrutements au sein de l'armée. Toujours en Thaïlande, nous avons rendez-vous avec un jeune déserteur de l'armée de la junte.
Je m'appelle Tagian Coco, j'ai 22 ans et je vis maintenant à Maysot.
Nous nous rencontrons à l'abri des regards, au fond d'un petit restaurant birman. À peine sorti de l'adolescence, un duvet en guise de moustache, Tagian Coco se tient recroquevillé sur une chaise en plastique, ses grands yeux noirs perdus dans le vague. La conscription forcée lui a volé son adolescence.
Je n'ai jamais voulu rejoindre l'armée. J'ai été recruté de force à 15 ans. On m'a fait des faux papiers pour dire que j'étais majeur. Un jour, j'étais à Rangoon pour travailler dans le restaurant de ma tante. J'ai été arrêté par des militaires avec 3 autres amis. Ils nous ont braqués en disant que si on fuyait, ils nous tireraient dessus. J'avais environ 400 dollars sur moi pour les envoyer à ma mère. Ils m'ont tout pris et ont écrasé mon téléphone. Et on a été amené dans un camp d'entraînement militaire.
Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous avez fini par partir de la Birmanie 3 ans après le coup d'État?
Quand j'étais militaire, il y avait avec nous 2 jeunes enseignantes du mouvement de désobéissance civile. Elles ont été arrêtées et emmenées de force sur la ligne de front. J'ai vu les soldats les torturer. Je me disais qu'elles n'avaient rien fait de mal. Ils les frappaient avec des câbles ou leur lacéraient la peau avec des couteaux. J'ai pleuré en voyant ça. Je me suis dit que je ne voulais plus rester là. Donc, on a décidé de fuir tous les 3. Nous avons marché 15 jours dans la jungle. Puis on a fini par arriver à Miyawadi et on a traversé la rivière à la nage pour arriver en Thaïlande. J'aimerais beaucoup retourner en Birmanie. Si je le pouvais, j'irais, car je n'ai pas de nouvelles de mes parents depuis 7 ans. Et ici, j'ai beaucoup de difficultés.
Tagian Koko ne sait pas bien lire ni écrire le birman. Et les déserteurs ne sont pas toujours les bienvenus à Maïsot. Le soupçon pèse, ont-ils fui par idéologie, par peur de la junte ou par simple opportunité ?
Si je retourne en Birmanie, je risquerais d'être tué, car je suis un déserteur. Mais mes parents me manquent beaucoup. Parfois, je me dis que tant pis, je préférerais mourir que de ne pas essayer d'y retourner, revoir mes parents. Ces récentes élections de la junte sont une fraude. Pour le moment, je dois rester en Thaïlande. Mon futur ne peut être qu'ici. J'espère juste qu'il y aura la paix.
Dans un pays à l'histoire émaillée de coups d'État et de luttes armées entre les groupes ethniques et le gouvernement central, ces récits de coercition ou de torture concernent le plus souvent l'armée birmane. Mais après 5 ans de guerre civile, forcément, les dérapages se multiplient de tous les côtés. Le coup d'État de 2021 a néanmoins cristallisé la colère des Birmans, aussi bien que celle des groupes ethniques, dont les luttes armées, bien que larvées, ne s'étaient jamais complètement éteintes. Cette colère, après une décennie de tentatives démocratiques, aura conduit à un rare moment d'unité entre les groupes armés ethniques et une jeunesse birmane sous le choc, dont une partie va décider de prendre le maquis sous le pavillon des forces de défense du peuple, les PDF.
Hello.
Bonjour.
Bonjour.
C'est au Cambodge que nous rencontrons un ancien résistant qui préfère ne divulguer ni son nom ni sa profession. Par souci de discrétion, nous le rencontrons à son domicile où il s'affaire à préparer un curry, birman bien sûr.
Ma mère aime cuisiner végétarien de temps en temps, se passer de viande toute une journée. Parfois, elle me parle du prix des denrées aujourd'hui. Même le prix du riz ou des oignons a doublé. C'est très dur de s'en sortir.
Alors, on est là pour la radio. Donc, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que tu mets dans ce curry végétarien ?
Je sais pas. Je suis un révolutionnaire, moi. Pas un cuisinier.
Non, le chef.
Avant le 1er février 2021, sa vie ressemble à celle de beaucoup d'autres jeunes birmans de sa génération. L'université, un job étudiant, des amis, des projets.
De 2008 à 2021,
c'était l'ère de la liberté. Avant le coup d'État, ma vie était géniale. J'adorais la vie universitaire. Et j'avais toujours rêvé d'étudier le génie chimique.
Cette génération a grandi dans l'ouverture. Aung San Suu Kyi, la démocratie en marche, l'afflux des capitaux étrangers. Il a 21 ans à l'époque et comme d'autres, il ne voit pas le coup venir.
Je me souviens que dans la matinée du 1er février, on ne pouvait pas joindre nos familles ou nos amis. Il n'y avait ni Internet, ni réseau téléphonique. Ils avaient tout coupé. Quelques instants plus tard, c'est sur la chaîne de télévision d'État qu'ils ont annoncé que les militaires allaient prendre le contrôle du pays. C'est là que nous avons réalisé que nous allions retomber dans une période très sombre.
Il quitte son travail, puis l'université, désormais sous contrôle des militaires, et il descend dans la rue.
On manifestait, on courait dès qu'ils tiraient à balles réelles. Mais nous n'avions rien pour nous défendre, rien que des bouteilles d'eau et des bannières. Ils tiraient et on fuyait. Puis on se rassemblait à nouveau dans la rue pour manifester jour après jour avec mes amis, mes collègues et d'autres que je ne connaissais pas. Mais nous étions comme des frères à nous battre pour notre futur et notre liberté.
Pendant près de 6 mois, il manifeste, il pleure aussi, et puis un soir, il décide de prendre les armes.
Pour eux, c'était comme un jeu de tir. Des soldats se félicitaient d'avoir parfois tiré sur quelqu'un en pleine tête. Ok, assez. J'ai décidé de rejoindre la résistance armée. Et j'ai jeté, non pas un, mais deux cocktails Molotov dans une station de police. Et oui, j'en étais très fier.
À sa mère, il écrit qu'il part en voyage avec des amis pour deux jours, mais le jeune étudiant quitte en fait Rangoon pour la jungle. Face à une armée suréquipée et surdéployée dans les villes, la résistance civile se mue en une multitude de groupuscules armés, les PDF, les forces de défense du peuple. Ils migrent vers la jungle et les zones qui échappent au contrôle de l'armée, où les groupes ethniques rodés à la guérilla entraînent ces autres groupes qui partagent désormais un ennemi commun, la junte.
Dans les écoles qui sont sous contrôle gouvernemental, on nous enseignait que les forces armées ethniques étaient l'ennemi du gouvernement, du peuple et du pays. Mais dans la jungle, j'ai compris que ça n'était pas vrai. Par exemple, ils nous ont enseigné comment utiliser des armes, comment courir ou prendre position sur le champ de bataille. Mais ils n'abusaient pas de leur statut de formateur. On était comme des frères.
Premier vrai combat, 300 soldats de la junte contre des résistants tout juste formés.
J'avais tellement peur. La guerre, je ne l'avais vue que dans les films avec des gars qui tirent comme des super-héros. Mais sur un champ de bataille, vous n'êtes personne. Vous n'êtes qu'une cible qui cherche à éviter les balles.
Deux ans entre la jungle et Rangoon avant de raccrocher. Notamment en raison d'un désaccord avec des responsables du gouvernement d'unité nationale, le NUG, formé en avril 2021 par des parlementaires élus renversés par le coup d'État et qui se pose en alternative à la junte militaire. Le NUG a de l'influence sur certains bataillons PDF, mais une mosaïque d'opinions existe au sein de la résistance. Le point commun, c'est l'ennemi.
Beaucoup ne soutiennent pas le NUG en fait. Ils font juste tout ce qu'ils peuvent pour combattre la junte militaire.
Il sort de la jungle, plusieurs mois dans une planque à Rangoon, sans voir ses proches. La conscription déclarée, l'épuisement. Il quitte la Birmanie en 2024, c'est l'errance. La Thaïlande d'abord, puis le Cambodge.
En fait, la réalité, c'est que tout le monde au Myanmar a perdu quelque chose. Moi, j'ai dû renoncer à mon éducation, renoncer à mon avenir. Je n'avais plus aucun repère. Des gens fuient le pays, ils vont en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande. Mais tous ont des troubles de la santé mentale à cause de ce coup d'État. Certains jours, je ne sais pas ce que je fais là. Même quand j'étais dans la jungle, mais qu'est-ce que je fais là?
Why am I doing this?
Sorry. Les images qui remontent, la culpabilité qui ne le quitte pas, même au Cambodge, même quand la vie reprend. Ce qui ne le quitte pas non plus, c'est la hargne contre la junte militaire. Alors il continue d'envoyer un peu d'argent à la résistance, et même si ce n'est pas d'actualité, il se dit prêt à reprendre les armes s'il sent que le vent tourne en défaveur de la junte.
J'ai risqué ma vie quand je suis allé dans la jungle. Et oui, aujourd'hui, j'ai quitté le pays. Mais même si cette révolution dure 10 ans, 20 ans, je choisirai toujours la liberté. La liberté et la démocratie.
Ces Birmans, éparpillés en Asie du Sud-Est, ont un point commun. Pas de statut de réfugié, une protection minimale et une vie en suspens. Direction Kuala Lumpur, en Malaisie. Le pays d'Asie du Sud-Est n'a jamais signé les accords de l'ONU pour les réfugiés. Dans le pays, l'UNHCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés de l'ONU, recense plus de 189 000 Birmans, un chiffre qui prend seulement en compte les personnes possédant une carte de l'UNHCR, Le nombre réel d'exilés birmans reste ainsi largement supérieur. Parmi les ethnies de la Birmanie, les Rohingyas, dont la grande majorité sont de confession musulmane, sont privés de statut de citoyen depuis une loi de 1982. La répression des forces de l'ordre birmane à leur encontre s'est intensifiée notamment en 2012 et 2016, provoquant des exodes massifs. Des événements qualifiés de nettoyage ethnique par les Nations Unies. Plus récemment encore, la Gambie a saisi la Cour internationale de justice à La Haye, accusant la Birmanie de génocide. Dans un bâtiment discret du sud de Kuala Lumpur, une ONG accueille des réfugiés Rohingyas. Ces derniers scrutent de près l'actualité. Rafik Ismaël est originaire de l'état birman d'Arakan. Lui et sa famille ont fui les persécutions il y a presque 30 ans.
Mon père était un leader local, donc il essayait d'aider les communautés qui avaient besoin de nourriture. Mais les militaires n'aimaient pas ça. Et ils ont pris mon père pour le mettre dans un camp de détention. Ensuite, ils s'en sont pris à ma mère. Et puis à mon grand-père, notre communauté s'est battue pour ma famille. Mais après les avoir libérés, les militaires nous ont dit « Il vaut mieux vous partiez, sinon on tuera toute la famille ».
Malgré l'exil, Rafik Ismaël a suivi attentivement les élections organisées en Birmanie.
Le problème au Myanmar dure déjà depuis 70 ans, donc je ne vois aucun avenir possible, sauf si on fait partir la junte. L'élection pourrait alors permettre la démocratie. Peut-être qu'on aurait une chance. Mais cette élection-là, elle ne sert à rien. Pour nous, Rohingyas, que ce soit la junte ou Aung San Suu Kyi, c'est pareil. Parce qu'ils ne nous soutiennent pas. La dernière fois, parce qu'elle a obtenu le prix Nobel de la paix, vous savez, on a cru qu'elle pouvait faire quelque chose de meilleur pour le Myanmar. Mais malheureusement, non. On n'a vu aucune bonne chose d'elle.
Au fond de la pièce, il y a une jeune femme qui écoute notre conversation et qui, je crois, veut nous montrer un peu les locaux.
Donc voici les salles, avec des meubles, l'air conditionné. C'est un luxe pour nous, vous savez. Là, c'est la cuisine, donc vous pouvez voir ce qu'ils font.
Donc on est dans la cuisine, et il y a une dame qui est en train de faire à manger pour les réfugiés. Il y a des enfants au fond de la cuisine qui attendent de manger.
On a aussi une sorte de magasin où on stocke notre riz, l'huile et aussi des ustensiles de cuisine. Donc en fait, ce qu'on fait, quand parfois certains réfugiés viennent ici pour demander de la nourriture, eh bien peu importe la nourriture qu'on a ici, on la prend depuis ce stockage et on leur donne la nourriture. Notamment pour celles qui n'ont pas de mari, les mères célibataires avec leurs enfants. On les aide en leur fournissant de la nourriture, car les soutenir avec un système de fonds financiers, on ne peut plus.
Il y a notamment deux personnes qui dorment sur des matelas à terre au fond de la salle. Et les membres de l'association me disent que ce sont des Rohingyas qui sont arrivés il y a peu de temps dans le pays et qui cherchaient un endroit où se loger temporairement.
Donc ce sont des sans-papiers. Ils n'ont pas de famille ou de connaissances en Malaisie. Ce qu'on fait, c'est qu'on les accueille temporairement. Car parfois, les réfugiés sont sans-abri, n'ont pas de mari, sont des mères célibataires. On leur diagnostique des maladies parfois. Donc on les garde temporairement. Et si on trouve quelqu'un qui accepte de les aider, alors on lui dit de les abriter chez lui pendant un certain temps.
Khatija, qui nous fait la visite, a fui son pays il y a 5 ans.
Le voyage s'est fait de la Birmanie à la Thaïlande, puis de la Thaïlande à la Malaisie. Ça nous a pris 25 jours en tout. Depuis mon village, on s'est rendu en ville, dans la capitale de Sitwe, dans l'état d'Arakan. Après ça, on a pris un bateau pendant quelques jours, si je me souviens bien. C'était des petits bateaux. Et on est passé par des eaux internationales, mais je ne me souviens plus lesquelles, pendant 5 jours. Et puis on est arrivé en Thaïlande, où on est resté un peu. Ensuite, nous nous sommes rendus en Malaisie. Il y a des personnes qui ont été violées à bord du bateau. D'autres sont mortes, aussi à bord, et à cause de l'eau, la mer.
Certains de ses proches Rohingyas sont toujours en Birmanie.
Mon beau-frère a été pris par l'armée d'Arakan en 2024. Il a presque été battu à mort pendant environ 2 mois, donc il ne peut quasiment plus bouger. Il est presque paralysé maintenant. Je crois à l'unité, mais je ne pense pas que la situation au Myanmar va s'améliorer. On sait que beaucoup de pays soutiennent la junte avec des armes et aussi de l'argent. Nous connaissons la plus longue guerre de l'histoire, donc je ne pense pas que ça ira mieux. Le plus effrayant ici, c'est l'expulsion. La Malaisie a déjà eu recours à des expulsions. Alors que se passe-t-il pour les réfugiés qui n'ont pas de carte du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés? Eh bien, ils seront ramenés dans leur pays. À la fin de la journée, ils seront tués.
L'exil, la peur de l'expulsion, c'est dans ces conditions que les Birmans tentent de reconstruire une vie hors de leur pays. Avec une priorité, retrouver un emploi ou une activité économique pour subvenir à leurs besoins. Nous revenons à Mysot, en Thaïlande. Plus de 4 millions de Birmans vivent ici, dont plus de la moitié sans statut légal.
Là, on va partir vers le marché de minuit. C'est à 10-15 minutes.
Ce jeune homme se fait appeler David.
Donc on y va, on va vous suivre.
Je suis en train de préparer tous les ingrédients.
C'est de la soupe de poisson que... David a versé sur le réchaud.
Comme notre contact au Cambodge, David est un ancien membre des PDF et militant pro-démocratie. Lui a quitté le maquis pour des raisons de santé.
Vous étiez étudiant à l'époque du coup d'État. Vous tenez maintenant ce restaurant et ce stand de nourriture sur le marché de nuit. Est-ce que c'est l'avenir que vous aviez imaginé ?
En 2021, avant le coup d'État, je me préparais à entrer à l'université. Mais le coup d'État a complètement changé ma vie. Mon rêve, c'était de voyager et de devenir blogueur de voyage. Ma vie actuelle n'a rien à voir.
À côté du stand de David, d'autres échoppes de nourriture, birmanes bien sûr, quelques stands de vêtements et juste derrière l'allée de Barnum, une esplanade avec des tables. Les habitants viennent ici passer du bon temps le soir.
Est-ce que c'est facile de venir de Birmanie et de s'installer à Mysot ?
Au début, pas du tout. Je n'avais pas de papier, j'avais tout le temps peur de la police. Mais au fil des mois, j'ai obtenu un permis de travail et c'est un peu mieux maintenant.
En évitant les arnaques, les agents malhonnêtes, David a pu obtenir une pink card, la carte rose, mais ce permis de travail ne vaut que pour des emplois peu qualifiés. De nombreux Birmans en Thaïlande payent aussi ce qu'ils appellent des cartes de police, un système informel pour ne pas se faire arrêter et expulser par les autorités. Cela coûte une dizaine d'euros par mois.
Comment est-ce que vous voyez votre avenir, les prochains mois, les prochaines années ?
J'ai un petit restaurant avec ma femme. C'est ouvert de 7h30 du matin à 10h le soir. Puis de 17h à 23h, je tiens ce stand. Et je n'ai pas les moyens de lancer l'affaire que j'aimerais lancer. Tout cela couvre à peine nos dépenses du quotidien. Je ne peux pas payer mes frais médicaux et j'aimerais pouvoir envoyer plus d'argent à mes camarades résistants. Je me sens si désolé de ne pas pouvoir le faire.
Est-ce que vous gardez espoir quand on connaît l'histoire de la Birmanie des dernières décennies qui a été marquée presque systématiquement par des régimes militaires et des périodes de transition démocratique toujours courtes et avorté.
J'espère que dans les 6-7 prochaines années, on aura éliminé tous les militaires. C'est mon seul souhait, mais je pense qu'un vrai retour à la démocratie n'arrivera pas avant une dizaine d'années. Ici, comme je suis jeune et que j'aime être libre, j'ai plus d'opportunités. Car en Birmanie, les vieilles générations nous empêchent toujours de mener à bien nos projets. La Thaïlande, pour ce qui est de l'économie, offre mieux que la Birmanie. Les prix et les conditions de vie sont meilleurs, mais s'il n'y avait pas de coup d'État, je préférerais quand même rester en Birmanie.
Plusieurs ONG appellent la Thaïlande à offrir un statut plus protecteur et durable aux Birmans. Ici non plus, comme en Malaisie, le statut de réfugié au sens des Nations Unies n'est pas reconnu. Des centaines de kilomètres plus loin, au Cambodge, se dessine une autre réalité de l'exil birman. Le Cambodge n'a pas de frontière commune avec la Birmanie, les permis de travail sont coûteux, il n'y a pas non plus de grande communauté historique birmane. Ceux qui s'y installent arrivent souvent par des chemins détournés, une opportunité professionnelle, des connexions sur place.
Quand on part à l'étranger, c'est souvent pour un pays plus développé où l'on peut améliorer nos conditions de vie et soutenir nos familles. Comme on ne voit pas le Cambodge comme aussi développé que la Thaïlande ou le Vietnam, ce n'est pas la première option qui nous vient en tête. Et puis, il y a la question des centres d'arnaque. On n'entend parler que de ça dans les médias.
À la terrasse d'un café de Phnom Penh, la capitale du Cambodge, nous retrouvons un informaticien birman de 27 ans. Après l'annonce de la conscription début 2024, son employeur lui offre une opportunité et une porte de sortie.
L'entreprise a plusieurs branches en Asie du Sud-Est. Un jour, on m'a proposé de m'installer au Cambodge. J'ai repoussé ma décision tant que j'ai pu parce que je ne voulais pas encore quitter le pays. J'aurais pu rester, mais j'ai pensé à ma sécurité d'abord, à ma carrière ensuite. Avec le retrait des investissements étrangers, je ne voyais plus l'intérêt de rester.
Au Cambodge, difficile de savoir combien de Birmans sont présents. Quelques dizaines de milliers tout au plus, mais 20 000 en tout cas dans ce groupe de Birmans sur Facebook.
70% des publications que je vois dans ce groupe depuis quelques semaines, c'est des gens qui demandent de l'aide. Celle-ci dit « Je veux retourner au Myanmar, comment puis-je contacter l'ambassade? Quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît, mon mari est retenu à cet endroit, comment le faire sortir ?»
Les Birmans sont nombreux dans les centres d'arnaque en ligne cambodgiens. Mais depuis janvier 2026, les autorités multiplient les descentes sur ces complexes où des milliers de personnes escroquent à distance pour le compte de réseaux criminels. Une industrie frauduleuse et lucrative qui a explosé ces dernières années au Cambodge, en Birmanie et au Laos, et qui attire des migrants précaires, parfois sans papier ou mal informés.
Morally, it's wrong. Moralement, c'est mal, mais quand les gens sont désespérés, qu'ils n'ont plus un sou, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour survivre. C'est dur de généraliser. Il y a ceux qui font ça volontairement, pour l'argent, mais il y a aussi les gens qui ne savaient pas, qui pensaient être recrutés pour un travail normal et qui se retrouvent malheureusement coincés là-bas. Beaucoup ont été piégés par des recruteurs illégaux.
Et ce Birman ne juge pas. Il sait qu'il a eu de la chance, un employeur qui l'a aidé, un passeport en règle, un visa de travail. Ce n'est pas le cas de la plupart.
On est dans une situation vraiment difficile. Le pays est un foutoir sans nom. La vie est difficile pour tout le monde. Si tu restes au pays, c'est dur. Si tu le quittes, tu gagnes peut-être plus d'argent, mais ça reste très dur. Il n'y a pas de bonne réponse. Je préfère ne pas critiquer les décisions des autres, sauf bien sûr s'ils soutiennent ouvertement la junte au pouvoir.
Vivre en exil implique aussi un accès limité à l'éducation. Un obstacle de taille, notamment pour les réfugiés birmans présents en Thaïlande et en Malaisie, pays non signataire des accords de l'ONU pour les réfugiés. Beaucoup d'ONG proposent ainsi des centres éducatifs pour se substituer aux écoles classiques. En Thaïlande, le nombre de ces centres informels a doublé en 5 ans autour de Mae Sot. Le passé de ces enfants, traumatisés, rend parfois l'apprentissage plus difficile. En Malaisie, l'école Elom, située au nord de la capitale Kuala Lumpur, accueille des enfants réfugiés birmans, principalement Rohingyas. C'est Soudja, le fondateur et directeur d'Elom Initiative, qui nous emmène dans les classes. Il a préféré s'exprimer à la fin de la visite. Tom Carter est le proviseur d'Elom Academy.
Il y a une chose que je dirais sur les enfants ici, ils sont incroyablement résilients, ils sont vraiment forts, et ils partagent des choses parfois. On a un mur dans une des salles de classe, je crois que vous l'avez vu, vous pouvez lire comment les élèves s'expriment, vous pensez alors à toutes ces choses atroces que toutes ces personnes ont vécues, et c'est fou. Mais à la fin de la journée, parce qu'il y a cette résilience et que ce sont des enfants, j'oublie ces choses. J'oublie que j'enseigne à des réfugiés. Je les traite comme des enfants normaux. Ils ont l'attitude d'enfants normaux. Et il y a bien sûr ce vécu en arrière-plan. Mais ce sont des enfants avant tout, comme dans n'importe quelle autre école. C'est ce que je leur dis.
Vous parlez avec eux de leur futur, des études qu'ils peuvent faire après cette école ?
Oui, bien sûr. Et évidemment, les élèves eux-mêmes, surtout ceux âgés de 17 et 18 ans, ne sont pas étrangers au monde et à son fonctionnement. Donc on doit vivre et faire face à la réalité avec un air d'optimisme et un plan qu'on élabore avec un GED, un diplôme d'éducation générale reconnu à l'international. 36 universités en Malaisie reconnaissent les examens du GED et plus d'une centaine d'universités à travers le monde reconnaissent ce certificat. C'est l'étape 1. L'étape d'après, c'est frapper aux portes des universités et d'obtenir une bourse. Et ça, c'est une chose difficile parce qu'en Malaisie, ils donnent des bourses d'études aux réfugiés, mais il y en a une ou deux, alors qu'il y a 2000 candidats. Ces étudiants ont déjà parcouru un long chemin, mais on peut faire preuve d'un peu d'optimisme. Mon rêve à moi, en tout cas, ce serait de voir mes élèves entrer à l'université.
Soudjahoudine Karimoudine, dit Soudja, le fondateur et directeur de l'école, nous emmène sur le toit de l'établissement.
Donc ici, c'est notre petit endroit où on fait nos pauses. On a un beau jardin. Et oui, on a des poules aussi. Et un compost, ça fait partie des projets en sciences aussi. Les enfants apprennent les plantes et autres. Ils peuvent faire leurs propres expériences et pendant les récréations, les enfants viennent aussi ici. Je surveille tout en faisant une pause.
Assis sur un banc de la cour de récréation, Soudja, Rohingya, se remémore ses souvenirs de Birmanie.
Au Myanmar, le gouvernement de l'époque, tout comme celui d'aujourd'hui, est allé jusqu'à renier notre nom. Ils ne veulent pas le prononcer. Et ça, c'est déjà un génocide. Ils refusent de reconnaître le nom de notre ethnie, malgré les montagnes de preuves qui témoignent de l'existence des Rohingyas là-bas. Ils s'appellent bien Rohingya, et ils ont été mentionnés même à l'époque d'avant l'indépendance birmane, au moment de la colonie britannique.
Pour Soudja, l'éducation est indissociable d'une réflexion sur la paix.
La valeur de l'école Elom Initiative, c'est que nous ne discriminerons jamais quel que soit le statut que vous avez. Parce que nous-mêmes, nous avons été discriminés sur la base de la religion, de la race, de l'ethnie et du statut, c'est-à-dire au sens de la citoyenneté ou de la non-citoyenneté. Donc ici, la politique, c'est la non-discrimination, quel que soit votre statut. Tous ceux qui ont besoin d'aide, nous les accueillons. Et c'est une façon pour nous de briser le cercle de la discrimination. La paix est toujours possible, toujours. Mais pour amener l'unité, la première chose à faire, c'est de reconnaître ce qu'il s'est passé. Et se repentir collectivement, exprimer des regrets, et vous repentir pour ce qu'il s'est passé, de manière à la fois collective et individuelle. Puis vous vous engagez à ce que ça ne se reproduise plus. Et c'est seulement de cette façon que vous pouvez construire un futur. Si vous continuez à avoir tous ces sentiments, tous ces bagages de haine et de déshumanisation, vous n'obtiendrez jamais d'unité.
Derrière sa volonté de casser le cycle de la négation et de la haine, Soudja reste convaincu que l'éducation demeure l'un des rares chemins capables de conduire un jour vers la justice et la paix en Birmanie. Mmh.
cette nuit et mia maman qu'on a bien d'autres mais ma zone son pied mille et n'a y'a mal et son pied chè pour l'on a plus y'a mia et n'a l'on y'a y'a
Birman en exil, entre survie et espoir de démocratie, un reportage de Juliette Pietraszewski, Juliette Chénion et Juliette Buchez, avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Notre invité, Christian Lechervy, envoyé spécial pour la Birmanie en France. Alors, à travers ces reportages, on a eu un aperçu des difficultés rencontrées par les Birmans en exil. Pour le compléter, on peut rappeler que la Birmanie a aussi des frontières à l'ouest, avec l'Inde et le Bangladesh, et de nombreux Birmans vont aussi se réfugier dans ces deux pays. Il y a eu en particulier un exode massif de Rohingyas au Bangladesh, Christian Lechervy.
Oui, aujourd'hui au Bangladesh, il y a un peu plus d'1,5 million de Rohingyas, même s'il y a d'autres communautés en nombre plus petit. Ce flux ne cesse de grossir. Au cours des 18 derniers mois, il a progressé encore de 150 000 personnes. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cela. Je dirais deux principalement. Le premier, c'est qu'il y a un affrontement le long de l'État qui fait frontière, l'État de l'Arakan, que l'on appelle aussi aujourd'hui l'État Rakhine. Les insurgés contrôlent 14 des 17 subdivisions de ce territoire, à l'exclusion de la ville capitale située et du point d'atterrage des gazoducs et oléoducs qui alimentent depuis l'océan Indien la Chine. Mais les affrontements sont quotidiens, les bombardements aériens, y compris sur des positions civiles, sont quotidiens. Donc ça pousse évidemment les populations, dont les Rohingyas, pas seulement, à se déplacer à l'intérieur du territoire et vers l'étranger. Le deuxième facteur, c'est que la stratégie de l'armée consiste à couper les populations de leur environnement. Et dans cette stratégie, évidemment, l'accès à la nourriture, l'accès à l'aide, elle est extrêmement contrainte. Donc on a une zone d'extrême pauvreté et j'allais dire même de famine. Donc pour survivre, tout simplement, le choix est de partir. Alors ça peut être partir à pied vers le Bangladesh, ça peut être partir à pied vers l'Inde, ça peut être aussi, on l'entend dans le reportage, prendre le risque de la voie maritime avec tout ce que cela suppose pour ces boat people. Malheureusement, leur sort n'est guère différent de ce que l'on a connu pour les boat people vietnamiens il y a un peu plus d'une quarantaine d'années.
Au Bangladesh, il y a le plus grand camp de réfugiés au monde. Juliette Chénion, vous êtes allée visiter un camp de réfugiés en Thaïlande. Qu'est-ce que vous avez vu ?
Eh bien, ce sont des camps de réfugiés. En fait, il y en a 9 en Thaïlande. Il y a plus de 100 000 personnes qui y vivent. Ce sont des camps de réfugiés, donc des baraquements assez sommaires en bois, des allées très étroites. Ça m'a marqué. On voit à peine le ciel par endroit. Évidemment, un accès à l'eau très restreint, pas de gestion des déchets, donc c'est assez insalubre. Beaucoup d'enfants et globalement ces camps sont gérés par des ONG, mais en fait il y a des questions assez sérieuses qui se posent depuis un an, depuis la fin de l'aide humanitaire décidée par Donald Trump et puis suivie par d'autres pays, notamment européens, en tout cas en Thaïlande, pour ces réfugiés qui sont dans les camps, parfois depuis des dizaines d'années et puis d'autres qui sont arrivés à cause du coup d'État. L'avenir et la capacité des ONG à assurer l'éducation, la nourriture, la santé est aujourd'hui vraiment en question.
Christian Lechervy, comment est-ce que les pays d'accueil des exilés birmans perçoivent ce flux migratoire ?
Avec un regard sécuritaire d'abord, sécuritaire en matière de santé, on peut le comprendre pour partie. Le coup d'État a entraîné l'effondrement du système de santé. Aujourd'hui, la plupart des enfants qui naissent ne sont pas vaccinés. Et donc c'est un problème pour les migrants. Il y a une crainte évidemment d'évolution démographique. C'est partiellement le problème des Rohingyas depuis malheureusement des décennies. Donc l'accueil, il est fait à la fois de solidarité et de rejet. Ça tient beaucoup à l'histoire locale, ça tient aussi à l'attitude des forces de sécurité le long de ces frontières qui tirent aussi des avantages de ces migrations et des évolutions ou les atermoiements des gouvernements centraux. Et il n'y a pas forcément une très grande constance dans les politiques d'accueil de ce migrant. Mais la volonté est quand même énoncée. On le voit à l'occasion de chaque échéance électorale dans ces pays, le Bangladesh étant le dernier exemple en date. Ils doivent rentrer chez eux. Mais comme on l'entend aussi dans le reportage, il faut bien être conscient que dans certains de ces camps, les jeunes adultes y sont nés. Donc, ils y font leur vie, si je puis dire, ou tout au moins cherchent à définir des stratégies de survie, d'emploi, d'éducation, de vie, de famille. On imagine les traumas qu'il faut vivre, et les traumas, on sait ce que ça provoque, évidemment, comme violence intrafamiliale, extrafamiliale, et de liens parfois aussi avec des pratiques plus contestables d'un point de vue pénal.
Et puis on voit mal aujourd'hui comment un retour serait possible. Ces exilés, on l'a entendu, vivent bien souvent dans une situation de grande précarité, mais c'est pire. En Birmanie, l'économie est totalement exsangue, l'inflation galopante.
La situation dans les lieux d'accueil sont également extrêmement difficiles, et elles sont de plus en plus difficiles. Les agences des Nations Unies elles-mêmes reconnaissent qu'elles sont très largement sous-financées et réduisent aussi les soutiens qui ont pu être apportés. La nourriture est à peu près garantie, mais je veux dire, tout ce qui va au-delà, l'éducation, la santé, on est plutôt dans une phase de difficulté croissante en la matière. Est-ce que ça peut pousser à des retours? Ce que vous décrivez de la vie intérieure n'y incite évidemment guère, puisque les conflits armés portent sur une bonne partie du territoire, et singulièrement des lieux d'où viennent ces populations. Et donc on a des réfugiés, au fond, qui vivent comme les Birmans, avec trois facteurs. Un facteur de peur permanent, un facteur de résilience parce qu'il faut vivre quand même, et puis un très grand pessimisme sur l'avenir.
Mais justement, la guerre civile en Birmanie, on n'en voit pas la fin, et on voit en plus que dans les zones de conflit, la population civile est totalement prise en otage. Qu'est-ce qui se passe exactement?
Bon, d'abord, on a une massification, je dirais, des unités de combat. D'abord du côté de l'armée de la junte, au travers de la conscription. La conscription se fait sur un rythme à peu près de 5000 personnes, jeunes hommes principalement, mais aussi des jeunes femmes par mois, ce qui veut dire que plus de 100 000 personnes ont été recrutées, ce qui est tout à fait considérable et qui explique la fuite d'un certain nombre d'entre eux. En réponse, les groupes armés, qu'ils soient ethniques ou révolutionnaires, essayent aussi de recruter, et de ci de là recrutent eux aussi par la force. Donc les combats sont d'une extrême violence, concernent, je dirais, l'essentiel du territoire, non seulement les zones périphériques où ils n'ont, au fond, jamais complètement cessé depuis l'indépendance, mais aussi dans la plaine centrale et plus ponctuellement avec des violences dans les grandes villes du pays. Donc cette massification, elle s'accompagne aussi avec de nouvelles technologies d'affrontement. Les bombardements aériens par la junte sont en forte augmentation. Ils ont doublé au cours des deux dernières années. Il n'y a jamais eu autant de civils tués par ces bombardements.
Mais ils sont directement visés?
Oui, les infrastructures civiles sont visées. Le nombre d'infrastructures de santé, par exemple, visées sur l'année 2025, selon l'OMS, c'est plus de 70. Plus d'une centaine de personnes ont été tuées. On trouve également des infrastructures éducatives, des lieux de culte, et il y a encore quelques heures, des bombardements qui ont pu porter atteinte à des lieux où des prisonniers étaient retenus. Donc oui, les civils sont ceux qui payent le prix le plus fort à ces conflits armés.
Et actuellement, donc, quel est le rapport de force? Parce que l'armée a repris du terrain ces derniers temps.
Oui, elle a grignoté du terrain, mais elle n'a pas repris tout le territoire qu'elle a perdu au cours de l'année 2023-2024. Cette conquête, elle se fait à la fois par le nombre de soldats, des bombardements aériens, des coordinations mieux assurées entre sa marine et son unité de l'armée de terre, sa marine et l'armée de l'air et l'armée de terre. Mais on voit, comme sur d'autres théâtres, apparaître évidemment de nouvelles technologies, les drones, des gyrocoptères, des deltaplanes, qui là aussi servent à faire du renseignement, du bombardement, et pour ce qui concerne les drones, y compris des opérations nocturnes.
Alors les opposants à la junte, ce sont aussi bien les partisans de la démocratie ayant pris les armes que des organisations armées ethniques qui défendent leur propre cause. Donc il y a des alliances de circonstances. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à faire front commun?
Dès l'année 2021, on a vu effectivement des coordinations s'opérer entre des groupes ethniques armés et ces groupes révolutionnaires, avec de la formation, avec du partage de renseignements, et puis avec des actions communes. Une bonne partie des offensives 2023-2024 ont été sur ce modèle-là. Il y a une coordination qui s'opère, je dirais, à la fois dans le domaine du renseignement, dans le domaine de l'achat d'équipements ou de la fabrication d'équipements, et puis une recherche d'actions communes au niveau tactique, voire au niveau stratégique. Alors au niveau stratégique, ça suppose évidemment des accords politiques, ça suppose de la confiance, ça suppose de se voir, ça suppose, je dirais, de construire une plateforme permanente. C'est apparemment ce qui est tenté entre le gouvernement d'opposition et certains groupes ethniques armés venant des États Chin le long de la frontière indienne, Kachin le long de la frontière chinoise, les Karenis et les Karen le long de la frontière thaïlandaise. Évidemment, face à cela, la junte cherche à diviser, comme elle l'a fait historiquement, entre les groupes ethniques eux-mêmes et les nouveaux insurgés et les insurgés les plus anciens.
La junte cherche aussi à améliorer son image à l'international. C'est ce qui l'a incité à organiser ses élections législatives. L'issue de ces élections, elle était connue d'avance. C'est le parti soutenu par le pouvoir qui a raflé la mise. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors, ces élections, elles étaient à la fois législatives pour la Chambre haute et la Chambre basse nationale. Elles étaient aussi pour les provinces. Donc, les 14 États et régions ont des assemblées provinciales avec, évidemment, les équilibres politiques assez comparables avec ce qui a été trouvé à l'échelle nationale. Et puis, il y a eu une élection aussi pour les représentants des minorités ethniques dans des États ou des régions où ils sont, je dirais, à la fois nombreux, mais comme minorités. Donc il y avait en réalité 5 élections en même temps. Ça va donner naissance, évidemment, à la désignation de nouveaux gouverneurs, de nouveaux présidents d'assemblées parlementaires et à l'échelon plus central, l'élection d'un chef de l'État et la nomination d'un gouvernement qui, évidemment, sera très largement issu des rangs de l'armée. Mais en parallèle de cela, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'ajustements. Les partis ont vu arriver des militaires qui ont été mis à la retraite ou mis à disposition de ces parti. Et donc, c'est l'ensemble de la scène politique qui s'est remilitarisée, mais c'est aussi l'ensemble de l'appareil de l'État. Et ça, c'est plutôt accéléré ces dernières années. On a une gouvernance centrale et locale aux mains de militaires d'actifs ou de militaires ayant récemment été mis à la retraite. Ce qui veut dire qu'on a un monopole du pouvoir par les forces armées et les élections ont servi à cet objectif et renforcé probablement le rôle central du commandant en chef des services de défense, le général Mélenchon.
L'idée étant de prolonger la tutelle que l'armée a sur le pays.
Oui, l'armée se voit comme le cœur du pouvoir, la seule garantie. Les discours environnant les élections ont répété que l'armée ne se retirerait pas du pouvoir tant qu'il y aurait des oppositions armées. Et donc, c'est évidemment pour non seulement consolider le poids institutionnel de l'armée, mais aussi préserver les intérêts économiques, je dirais, d'un certain nombre de familles de généraux, voire même de généraux exerçant pleinement leur responsabilité dans l'appareil de la Tatmadaw.
Merci Christian Lechervy. Le grand reportage de cette semaine, Birman en exil entre survie et espoir de démocratie, était signé Juliette Chénion, Juliette Buchez et Juliette Pietraszewski. Réalisation Annie Bro, à la technique Ludovic Auger, au web Caroline Beneteau. Documentation Patricia Miura et Véronique Le Faller. Pour retrouver et partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur le site franceculture.fr.